Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob, Frédéric Farah, économiste enseignant à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui a publié No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe chez Fayard. Xavier Tabou, directeur principal de l'OFCE. Il y a une auditrice qui trouve que, Isabelle, elle trouve que c'est pas bien de rire des malheurs de la France avec des histoires de chocolatine. Bon, je suis désolé.
Mais on riait pas.
Alors, sinon, Marie-Claude Roy considère qu'elle m'a envoyé. C'est de la propagande de dire chocolatine, il faut dire pas au chocolat.
Oui.
Bon, allez, hop, on revient à nos moutons.
C'est un sujet important, mais éternel et inépuisable.
Les marchés RAS, on disait.
RAS, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de quoi s'inquiéter.
Non, mais réaction ce matin, j'ai croisé des journalistes de BFM TV, est-ce que la bourse va s'écrouler ?
Non, pense qu'après, les marchés financiers peuvent remplir leur fonction de juge de paix par moment, c'est ce qu'ils ont fait dans la construction européenne récemment. On l'a vu en Italie, quand, évidemment, en 2011, M. Berlusconi n'avait pas trop envie de suivre la lettre de M. Trichet, c'était un peu agité, il est parti, on a mis M. Mario Monti à la place en tant que tel. Sinon, quel que soit, peu importe où on regarde sur l'échiquier politique, personne n'a envie de remettre les règles européennes en cause, personne ne veut remettre en cause le cadre européen. Donc, si quelqu'un avait dit oui, on arrive, on chamboule tout, etc., bon, je peux croire que ça peut créer un effet d'inquiétude.
Du côté RN, il y avait quand même l'idée qu'on tord le bras sur la TVA, qu'on sort à moitié du marché européen de l'électricité.
Mais je pense que s'ils étaient arrivés au pouvoir, je pense que, alors si on continue les références légères pour qu'on soit critiqué, ça aurait été caramel, bonbon et chocolat, merci mais pas pour moi, tu peux bien les offrir à une autre, ça c'est parole de Alain Delon et Dalida. Donc si on devait faire cette référence, donc je ne crois pas un seul instant à tout ça, et puis si le RN était arrivé au pouvoir, il avait fait un audit en expliquant que les finances sont dans un tel état que tout leur programme, il faudra le remettre à demain. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'alarmant, mais où je suis tout à fait d'accord avec Xavier Timbaud, c'est le fait que nous sommes au début de la crise politique. Je pense que et qu'on n'a pas encore vu tout le reste, mais c'est quand même rassurant de voir quand même que la démocratie française se porte quand même plutôt bien.
On est d'accord. Jean-Marc, le moment clé, peut-être le budget, le moment où vraiment on donnera la substance à la direction que nous décidons de prendre par rapport à nos finances publiques.
Oui, je crois que c'est l'événement majeur qui nous attend maintenant sur le plan économique, sachant que quand on regarde dans les périodes précédentes ou encore ce qui se passe à l'heure actuelle, quand il y a une vraie défiance à l'égard de décisions économiques, c'est plutôt le taux de change qui est touché. Listos a été obligé de démissionner parce que la Banque d'Angleterre a signalé que pour maintenir le taux de change de la livre, pour essayer de sauver le taux de change de la livre, elle allait devoir monter considérablement ses taux d'intérêt. Et vous regardez ce qui s'est passé récemment au Brésil. Au Brésil, le président Lula a annoncé que finalement, toutes ces règles d'équilibre budgétaire, toute cette volonté de limiter l'augmentation des dépenses allait à l'encontre de sa stratégie. Et la conséquence, c'est que dans les 48 heures qui ont suivi, le réal brésilien est passé de 1 égale 5 réal à 1 égale 5,6 et ça continue.
J'ai vu.
Et donc, effectivement, nous, on est protégés par l'euro. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez par rapport à 1981, le programme est un programme qui a été notamment donc du nouveau Front Populaire, est un programme qui a été un peu bricolé à partir du programme de Mélenchon de 2022, notamment le blocage des prix qui était à l'époque une réponse à l'inflation alors que l'inflation a disparu. Mais la grande différence par rapport à 80, c'est qu'il n'y avait pas de programme de nationalisation. Il y avait, en 1980, un très large programme de nationalisation qui avait été vécu comme étant effectivement une rupture par rapport aux règles de l'économie traditionnelle. Là, il n'y a aucun programme qui portait ça. Donc, effectivement, le fait que le taux de change soit préservé par l'euro et le fait que, malgré les envolées lyriques et les programmes économiques un peu délirants, il n'y avait pas cette rupture. Enfin, je rappelle quand même que le congrès du Parti Socialiste de 1981, l'enjeu, c'était de savoir si on romprait avec le capitalisme dans les 6 mois qui viennent ou dans l'année qui suit. Et donc, et ça s'est terminé par la rigueur.
Hein. Oui. Des 3 dévaluations et la rigueur.
Et la rigueur.
Il y avait un projet de nationalisation, mais qui avait été écarté, c'était du côté RN.
Oui, ils voulaient renationaliser.
Ah oui, mais le problème, c'est que ça coûtait au bas mot 45 milliards d'euros.
Alors, la rigueur, mais quand même, là, le bilan qu'on fait de la période de 81 n'est pas un bilan de simplement de l'austérité budgétaire. Non. Il y a quand même un certain nombre d'avancées sociales qui ont été réalisées à ce moment-là, il faut pas les oublier.
Bien sûr.
Et le compromis, il est parfois fait avec la réalité, mais on peut pas dire qu'il y ait là. Un renoncement complet, quoi.
Non, il n'y avait pas un renoncement complet. Et puis, d'autre part, effectivement, il y a des avancées en 81. Et,
on va revenir à aujourd'hui, hein, quand même.
Oui, bien sûr, non, mais je tiens à le dire. Et aujourd'hui, pourquoi on fait ce parallèle avec 81? Parce que, pour certains, la seule idée qu'il puisse y avoir une inspiration proche de ça, proche d'une référence keynésienne, c'était ligne rouge, ah, quelle horreur, etc., comme s'il ne pouvait y avoir qu'une seule politique économique possible. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que depuis 83, et puis on ajoute ensuite notre adhésion à Maastricht et autres, la politique économique, c'est 50 nuances de la même chose. Hein. Je veux dire, et donc la seule idée qu'il puisse y avoir une rupture un peu plus significative et qui reste vraiment très relative, tout le monde commence à s'agiter en disant « Ouyaïaï, le nouveau Front Populaire nous propose une rupture, on a l'impression, je sais pas, c'est la révolution d'octobre. » Donc non, je pense que ce qui est plutôt inquiétant, c'est de laisser entendre à une population qu'il ne peut y avoir en économie qu'à peu près une seule orientation possible, sinon les marchés vont taper sur les doigts, sinon l'Europe va se fâcher, et ainsi de suite. C'est quand même assez inquiétant en démocratie de se dire qu'il n'y a qu'une orientation politique de politique économique majeure, pour le reste, c'est de la fantaisie, c'est des lubies, ça n'a pas de sens.
Non, mais il n'y a pas qu'une seule politique économique, mais il y a quand même des erreurs économiques. Préparer une relance, annoncer qu'on va faire une politique de la demande dans un pays qui a un déficit extérieur de l'ampleur de celui que nous connaissons, c'est une erreur économique. C'est une grave erreur économique. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais dans plusieurs possibilités, il y a aussi des conneries. Donc, on peut effectivement avoir une autre politique économique, mais non pas une connerie.
Oui, parce que les enquêtes d'opinion mettent en avant le pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat, là, c'est de la politique de la main. Mais justement, tiens, on va en parler. Du coup, il y a un auditeur qui se demande maintenant, il s'appelle Steph, pourquoi on dit casino? Pourquoi casino s'appelle casino?
Ah ben je peux vous dire pourquoi.
Casino?
Parce que le casino a été fondé à Saint-Étienne par Monsieur Guichard,
oui,
qui a racheté l'ancien casino au sens des locaux du casino. Il y avait un casino qui avait été autorisé à Saint-Étienne. Bon. Parce que à Saint-Étienne, on produit notamment de l'eau minérale. Et donc, et le casino a fermé, il a racheté les locaux et il a gardé...
On va pas faire toutes les enseignes.
L'entrée qui, où il y avait marqué casino.
Donc justement, on se demande s'il y a du grain à moudre pour une sorte de programme qui permettrait de réunir tout ce petit monde pour former une majorité peut-être absolue, ou en tout cas proche de la majorité absolue. Alors là, le sortant a déjà lâché l'assurance chômage, c'est très clair. Il y a eu ce rapport opportun du Sénat disant que, oui, baisser la TVA à 5,5% sur l'électricité, hein, pas sur les carburants. C'était une baisse de 40% des factures. Donc là, on sent qu'il y a il y a justement un peu de grain à moudre. Et en face, on est attaché à l'idée qu'il faut remettre l'ISF et surtout abroger la réforme des retraites. Bon, alors, qu'est-ce que vous imaginez? Ça vous inspire quoi, messieurs? Quand on voit que là, ça va être maintenant ça va être du troc. Hein, alors, je ne sais pas s'ils ont peut-être encore une petite carotte du côté ensemble en disant « Tiens, ben, je vais vous donner un peu de prime d'activité, comme il faut du pouvoir d'achat. » Mais vous allez m'oublier l'histoire du SMIC. Et puis, mais là, le coup de la réforme des retraites, ça a l'air vraiment d'être le casus belli. Ça vous inspire quoi? Parce que c'est ça va être ça, hein, ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent. Ça va être de la petite cuisine avec chacun sa recette.
Bon, alors moi, je qualifierais pas ça, pour commencer, de la petite cuisine.
Ou de la grande cuisine.
Je pense qu'il faut aussi un peu respecter la démocratie.
Non, mais donc, bien sûr, mais...
Voilà, il va y avoir des compromis qui vont être faits. On peut dire que ces compromis sont de la cuisine, ou de la petite cuisine... Je pense qu'il faut être un peu plus respectueux que ça.
D'accord.
De ce qui va être fait. Alors après,
en tout
dans
cas,
les mesures,
c'est à peu près ça les éléments les éléments de la discussion. Okay. Hein.
Mais dans les mesures que c'est là-dessus. Hein. Dans les mesures que vous énoncez, oui, il y a les briques qui peuvent servir à construire un compromis, mais on est loin du grand soir. Enfin,
ouais.
Je vais abroger la réforme des retraites pour remplacer une mesure d'âge par une mesure de cotisation, par exemple. me paraîtrait pas quelque chose de proprement scandaleux. C'est une option qui est possible.
Ça n'a pas été évoqué comme ça. Hein.
Mais non, oui, ça n'a pas été évoqué
là,
comme ça, Nicolas.
Mais j'entends bien ce que vous dites.
Je veux dire, abroger la réforme des retraites, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait sur la retraite? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on fait la retraite à 60 ans pour tout le monde? Peu probable, Nicolas.
Oui.
Peu probable. Est-ce qu'on a une option budgétaire possible sur la retraite, c'est-à-dire des économies budgétaires possibles sur la retraite, autrement que par une mesure d'âge de départ? Sans doute, oui. Oui, il y a des choses à faire.
À ce moment-là, on remet 62, mais on joue sur les années de sur les annuités exigées.
Par exemple.
Ah oui, mais voilà.
Mais ça, par exemple, mais c'est, je veux dire, ça va être ça là.
Et on moque des détails, que ça va être des détails techniques.
Oui, voilà, mais c'est important, essentiel. Ces détails techniques, parce qu'ils sont dans la vie des gens, ces détails techniques.
Et donc,
s'il y a de la prime d'activité, c'est un détail technique, mais les 100 euros qu'on pourrait mettre en plus, c'est bien, ça va dans une poche.
Bien sûr.
Mais bien sûr, Nicolas.
La réforme de l'assurance chômage, c'est peut-être hyper complexe, à part que ça a changé la vie de pas mal d'assurés.
Je pourrais vous en citer plein d'autres comme ça. Après, il y a quand même un volet qui est le volet fiscal. Emmanuel Macron a traumatisé une partie de la population en supprimant l'ISF, en supprimant la taxe d'habitation. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le plan fiscal aujourd'hui en France? Sans doute. Est-ce que ça veut dire que c'est une politique de la demande?
Je pense qu'il se passera des trucs.
Est-ce que ça veut dire que c'est une politique de la demande? Pas nécessairement, parce que oui, la contrainte budgétaire, elle va être assez forte. Et probablement, la situation, enfin, pas probablement, mais la situation conjoncturelle, le diagnostic qu'on peut avoir, est que, d'abord, c'est pas le problème, et ensuite, on n'en a pas vraiment la possibilité. Donc, bon, voilà, je veux dire, là, il y aura un compromis qui va être fait. J'imagine un gouvernement qui va devoir pondérer entre tout un tas de contraintes dans tous les sens. J'imagine mal qu'on fasse une politique de la demande dans ces circonstances. Vraiment, j'imagine difficilement ça. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de réforme fiscale? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de réforme de la retraite? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas des mesures de pouvoir d'achat assez significatives? Sans doute pas, parce que dans ces contraintes-là, oui, c'est possible de faire ces choses-là. Alors, je veux dire, faire une réforme des retraites, penser que celle d'Emmanuel Macron, qui a quand même mis tous les syndicats contre lui, est la seule possible, non, ça, c'est pas possible de le dire.
Je sais pas qu'au moment de la réforme des retraites, certains avaient considéré qu'il valait mieux utiliser le paramètre des annuités plus que le paramètre de la borne d'âge.
Et mais probablement, là, on peut trouver avec les syndicats un compromis là-dessus. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire de la politique.
Ça m'intéresse d'avoir toutes les...
Si on doit faire une critique aux 7 ans qui viennent de s'écouler, c'est que quand le pouvoir est dans peu de mains, et que ses mains sont peu éclairées, on arrive à des choses qui sont difficilement acceptables par la population.
Oui, il est certain que c'est pas le dialogue social qui a dominé la coécriture du droit français.
Et la crise politique dans laquelle on se trouve, elle vient pas du ciel, hein. C'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur.
Non, mais je pense que c'est bien de rentrer.
C'est quelque chose qu'on a soigneusement construit nous-mêmes.
Je retire le mot petite cuisine, mais c'est bien de rentrer dans les éléments concrets qui pourraient nous donner la nouvelle photographie de l'offre politique, politico-sociale, économique à venir.
Une autre méthode. Et je pense que
une autre méthode.
Ouais, c'est-à-dire une autre méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, qui replace les syndicats, le dialogue social, les partenaires sociaux. C'est-à-dire, il faut cesser ce mouvement d'étatisation de l'assurance chômage, cette façon que tout est repris par l'eau. Il faut redonner de la place au dialogue social et ce que le macronisme et Monsieur Macron ne supportaient pas, puisque c'était toujours la verticalité en permanence. Un, deux, regarder où sont les leviers où l'on peut agir. Bon. Quand on observe ce qui reste à disposition en termes d'outils de politique économique, le budget est contraint, dans son sous-ensemble la fiscalité, c'est donc la fiscalité sur laquelle il va falloir réfléchir, soit pour faire effectivement, je ne dis pas un grand soir fiscal, mais en tout cas revoir l'impôt et la progressivité de l'impôt, réfléchir sur peut-être une autre base d'ISF que celle du passé, ça peut être une question, voir si on peut jouer oui ou non sur la TVA, ce qui est possible d'espérer de ce côté. En termes de pouvoir d'achat, voir ce qu'on peut faire aussi par rapport à la fonction publique qui avait vu aussi sa situation se dégrader. C'est évident qu'on ne peut pas faire une politique que de demande et séparer l'offre de la demande n'a pas beaucoup de sens parce qu'effectivement on est face à des problèmes d'une base industrielle à reconstruire, on est face à un problème de productivité qui commence à devenir de plus en plus problématique. Donc agir sur la fiscalité, oui, réfléchir sur la TVA, oui, repenser à une méthode en tant que telle, oui, revoir sur la question des retraites, c'est évident qu'il y a des leviers pour faire autre chose qu'une réforme pareille. Ça, c'est hyper important. Et je trouve qu'il faut trouver cet équilibre, à la fois où il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat, mais en même temps, il s'agit pas non plus de dire qu'on rase gratis, il s'agit pas de dire non plus qu'il faille faire en sorte que les entreprises étouffent sous les charges, mais faire en sorte que il y a quand même la population réclame de meilleurs services publics, la population réclame une question de pouvoir d'achat, et on ne peut pas ignorer cette chose-là. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour qu'on puisse discuter de tout ça entre les partis, avec une autre méthode que celle de M. Macron, qui était absolument insupportable. Et M. Faure a dit quelque chose d'hier,
Olivier
Faure, de très juste, qui était de dire, c'est la fin du temps du mépris. Oui, j'aimerais bien que ce temps du mépris cesse, parce qu'effectivement, ce gouvernement a gouverné comme ça pendant 7 ans. Donc, si ça peut être autre chose en termes de méthode, avec une fiscalité différente. D'accord. L'autre, ça peut être bien.
Quand vous entendez cette photographie d'une France d'après, Jean-Marc Daniel, ça, parce que je pense qu'il y a plein d'éléments dans ce qui ont été dit par Frédéric et par Xavier qui sont des choses très réelles, très concrètes et qui vont se poser dans ces termes-là.
Oui, je ne suis pas aussi convaincu que ça. Je pense d'abord qu'effectivement, l'économie a joué un rôle, mais pas exclusivement, quand même, dans cette élection.
Ah non, je ne pense pas qu'on a...
C'est important de le rappeler.
Que l'économie n'a pas été forcément...
Ah oui, non, l'économie n'a pas fait voter.
Les gens ont voté pour d'autres considérations. Et je pense en plus que les programmes économiques étaient bricolés. Encore une fois, il n'y avait pas de programme économique des sortants.
Ce que j'ai dit à Gabriel,
il n'y avait pas de programme économique.
Il est tellement clair qu'il est transparent, votre programme.
Le nouveau Front Populaire avait adapté le seul programme économique qu'il avait à disposition, c'est-à-dire celui de LFI, construit autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2022, donc il était totalement obsolète lui aussi. Et puis, et quant au Rassemblement National, il se défaisait de jour en jour. Chaque jour qui passait, ils abandonnaient une.
Et heureusement, ça n'a duré que 20 jours.
Oui. Et ce que j'ai trouvé aussi frustrant, c'est que le monde des économistes a encore pris position.
On va en parler juste après.
Il y a quand même deux sujets sur lesquels je pense qu'il va falloir réfléchir, notamment en termes de fiscalité. On parlait de Christian Gaulier, il y a quand même tous ces enjeux écologiques qui ont totalement disparu. C'est-à-dire que le grand absent de la... C'est non seulement les écologistes, mais c'est l'écologie en tant que telle.
Il y avait beaucoup d'absents, hein.
Le logement était absent,
la productivité était absente.
Mais la productivité, c'est quelque chose... La productivité, ça ne dépend pas immédiatement de l'action du gouvernement.
On est d'accord.
En revanche, faire une taxe carbone, avoir une fiscalité qui soit orientée vers les enjeux écologiques, vous vouliez qu'on parle des 20 ans du principe de précaution, c'est des choses qui sont des choses qui n'étaient pas là et qui auraient dû être au centre du débat. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, je pense que on le voit bien dans l'histoire, le Rassemblement National qui voulait renationaliser les autoroutes et tout ça. Non seulement le discours s'est tourné sur le pouvoir d'achat, mais en plus avec l'idée qu'il fallait donner du pouvoir d'achat sur un des secteurs qui est un des secteurs les plus problématiques, pour revenir sur mon premier point, qui sont les carburants. Or, quand vous regardez le vote, il y a quand même une sorte de jacquerie, entre guillemets, c'est-à-dire le monde rural est l'endroit où le Rassemblement National a fait ses meilleurs scores maintenant, c'est tout le monde rural et le monde des villes moyennes, et sur un discours qui est un discours, effectivement, l'essence coûte trop cher, il y a une politique anti-automobile, on en veut à l'automobile, et donc je crois on ne peut pas ignorer la volonté de la population, mais on ne peut pas ignorer qu'effectivement il y a des éléments qui font qu'il y a une sorte de nécessité qui va être en...
J'entends très bien ce que vous me dites.
Qui va être en opposition avec la volonté immédiate de la population.
Je doute qu'il y ait des éléments fiscaux, écologiques, enfin peut-être, je ne sais pas.
Vous aviez de réagir à ça.
Oui, c'est intéressant d'imaginer ce qu'on va construire et proposer aux gens en termes d'offres économiques,
bien sûr,
dans une sorte de ce que j'appellerais un programme commun, si on peut l'appeler comme ça.
Oui, je veux réagir à ça parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment commenté, mais je pense que un des échecs du gouvernement et qui a permis au Rassemblement National de prospérer, c'est l'affaire du leasing social sur les voitures électriques. La mesure phare du RN, c'était de baisser la fiscalité sur les carburants, la TVA sur les carburants. Ça représente un coût qui est estimé autour de 15 milliards d'euros par an.
Voilà,
15 milliards d'euros par an, si on avait subventionné à hauteur de 10 000 euros, ce qui est à peu près ce qu'il y avait dans le leasing social.
13 000 la part de l'État. Donc,
disons 10 000 ou 15 000, allez, si vous voulez. 15 000 pour simplifier. La mesure du RN aurait permis de faire du leasing social de 1 million de véhicules électriques par an. Or, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? En fait, le gouvernement, il a mis en place cette mesure, probablement excessivement généreuse, pas très bien ciblée, et a décidé de l'arrêter au bout d'un mois.
Même pas. Toujours parce que l'offre était déjà complètement sursouscrite.
Parce que ça allait coûter trop cher.
Ben oui, on s'est arrêté à 50 000.
Mais vous voyez, le problème, c'est que c'était la réponse à cette préoccupation de la France rurale et de la France des villes moyennes. C'était la réponse. De leur dire, plutôt que de baisser la TVA, qui va vous apporter du pouvoir d'achat, mais qui est quand même une mesure extrêmement coûteuse, à contresens de l'histoire, qui va donner de l'argent aussi à des gens qui ont des grosses voitures, qui consomment beaucoup, donc qui n'est pas du tout ciblé, il est impossible de la cibler. Plutôt que de faire ça...
Surtout qu'on ne fait pas machine arrière quand on est...
Plutôt que de faire ça, faisons 1 million de véhicules électriques par an. Mais vous imaginez 1 million de véhicules électriques par an, la puissance de transformation que vous avez en 10 ans, vous équipez le premier tiers de la distribution des revenus de véhicules électriques. Et donc, vous avez répondu à cette question par quelque chose qui est relativement simple, relativement concret et qui permet d'évacuer cette question. Et ça, je le mets comme étant un échec du gouvernement qui a proposé un dispositif, qui n'a pas su l'assumer et qui donc l'a décrédibilisé et a permis au Rassemblement National de prospérer avec une mesure qui est une mesure imbécile. Disons-le très
la
simplement.
La TVA 5-5, bah, débattu avec Jordan Bardella là-dessus en lui disant vous êtes le seul truc sur lequel vous n'avez pas de certitude, c'est le fait que vous aurez une parfaite répercussion sur les prix en baissant la TVA.
Bon. Non, il y avait une obsession sur l'automobile. Oui, encore une fois, la nationalisation des autoroutes, l'objectif c'était de faire en sorte qu'on baisse les péages en fait.
Oui,
d'orientation du Rassemblement National vers l'automobiliste, vers une catégorie de la population. Et il fallait répondre à ça et on n'a pas répondu à ça.
On ne va pas débattre pendant des heures sur le RN, ils ont 143 députés.
Oui, absolument.
C'est quand même important parce que.
Oui, mais d'accord.
On doit absolument tirer la leçon de ce qui s'est passé.
D'accord.
Ne pas la tirer, ne pas la comprendre, on est condamné à répéter cette histoire.
Christian,
et à augmenter ses fractures.
Christian Gaulier écrit dans Les Échos aujourd'hui, alors il revient sur la bataille qui a déchiré un peu les économistes pendant cette campagne. Il écrit des choses qui, pour lui, sont des choses absolument indiscutables. Indiscutables. Et pourtant, elles ont bien effectivement fracturé les économistes. Il met en taxant plus les revenus du travail, on réduit l'incitation au travail. En taxant plus le capital, on réduit l'incitation à épargner et à investir. Quand on taxe les fenêtres, on mure les fenêtres, écrit-il. Faut-il moins de travail, moins de capital et moins d'investissement au nom de l'aversion aux inégalités ? Peut-on redistribuer plus en produisant moins ? La redistribution de richesses, quoi qu'il en coûte, est-elle la voie à suivre ? Est-ce que c'est discutable ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec Christian Gaulier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord le fait qu'un certain nombre d'économistes ont pris position, mais sur des bases qui étaient des bases idéologiques. Et d'ailleurs, je rappelle quand même régulièrement qu'au moment de l'élection de François Hollande, en 2012, il y avait des économistes qui avaient conclu un appel à voter pour lui en disant qu'il symbolisait l'audace et la compétence. Donc, il y avait un côté, je ne veux pas dire critiquer François Hollande, mais enfin, c'était quand même un peu ridicule comme caractérisation de la personnalité et de l'action d'un homme politique.
Et certains sont repentis aujourd'hui, au moment où ça franchit l'idéologie.
Oui, oui. Mais sur le plan, je veux dire, sur le plan des réactions, au moment où Thomas Piketty est intervenu pour expliquer qu'effectivement, le soutien au nouveau Front Populaire était moins un soutien à un programme dont on pouvait considérer qu'effectivement, il n'était pas véritablement très sérieux, mais c'était une idée, à une tendance, et sa tendance et cette idée qui était derrière ce programme, c'était de réduire les inégalités. Et il disait, c'est pour ça que j'appelle à voter pour le nouveau Front Populaire. Donc je suis d'accord avec Christian Gaulier, tout un tas de mesures qui sont annoncées sont absurdes, et des économistes devraient expliquer pourquoi, par rapport à cette absurdité, ils soutiennent quand même ce genre de programme. Ce qui me paraît le plus désolant, c'est que le cercle de la raison, comme disait Alain Mec, n'a rien produit de véritable... C'est ce que disait Paul Krugman, quand il commentait les programmes des élections, non pas celle-ci, mais la précédente, il disait, le problème, c'est que ça fait 20 ans que les macroéconomistes ne proposent rien. Ça fait 20 ans que les économistes se contentent de répéter de façon incantatoire innovation, productivité et formation. Il y a un moment où il faut sortir simplement de l'incantation sur 2 ou 3 mots pour produire quelque chose de concret. C'est l'autre jour, je disais ça sur votre plateau en présence d'Emmanuel Combes, je disais, c'est du blabla. Je maintiens que pour beaucoup de gens, ces mots sont devenus du blabla.
Ah, mais pour beaucoup de gens, d'accord.
Il faut maintenant que les économistes sortent quelque chose autre que ça va être l'innovation, la formation et la productivité.
Que des choses soient difficiles à faire admettre.
Non, mais c'est même pas à faire admettre, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière. Il y a beaucoup d'économistes qui ne mettent plus rien derrière.
Mais là, en l'occurrence, Xavier Tabo, ce que dit Christian Gaulier, considérant que c'est pas normal qu'on se déchire entre économistes sur ces choses-là.
Moi je suis pas d'accord avec Christian Gaulier parce que je trouve que là, il a un point de vue qui est un petit peu simpliste.
Dommage, il n'est pas là pour répondre.
Non, mais il n'est pas là pour répondre.
Désolé, mais je compte bien l'inviter parce qu'il sera.
Je veux dire, dire que
pas loin de Paris.
Taxer a des effets négatifs, on est d'accord. Bon. Effectivement, c'est des incitatifs, ça fait moins de capital ou d'épargne quand on taxe le capital. Quand on taxe le patrimoine, c'est pas tout à fait pareil que de taxer le capital productif, ça a d'autres effets.
Il évoque pas le patrimoine, là.
Non, mais oui. C'est intéressant d'ailleurs de faire la différence entre capital et patrimoine,
oui,
parce que c'est une confusion qui profite évidemment aux détenteurs de patrimoine. Ok. Mais ensuite, quand on taxe les revenus du travail, ben oui, on désincite au travail, etc. Mais on voit bien quand même qu'on a des choix difficiles à faire. Si vous voulez subventionner à hauteur de 15 000 euros le leasing social pour pouvoir répondre à cette question essentielle d'angoisse existentielle et civilisationnelle des gens qui vivent et qui dépendent de la voiture et qui ne savent pas comment ils vont faire dans ce monde qu'on leur présente en les culpabilisant d'utiliser des voitures, bah ça coûte, oui, ça coûte 15 milliards par an d'euros. Bah, comment on fait les 15 milliards d'euros? Où est-ce qu'on les trouve? On les économise sur l'éducation? Bah, sans doute pas. Donc oui, à un moment, il y a des choix à faire. On sait que la taxation, ça a des effets négatifs. Mais on imagine, et c'est d'ailleurs écrit dans la Constitution, articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme, que oui, on peut prélever l'impôt quand il s'agit de faire le bien public. Et oui, pour avoir une armée
se défendre, déjà, j'ai envie de vous dire.
Il faut lever l'impôt. Et
on
oui,
le
pour éduquer.
Pas mal, hein, l'impôt déjà.
Mais non, mais on le prélève pas mal. Donc oui. On peut. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Mais voilà. Mais et... Christian Gaulier, il nous dit attention, quand on prélève l'impôt, c'est négatif. Mais Christian, on le sait que c'est négatif. On le sait. Le problème, c'est que on imagine qu'on aura un usage plus positif des recettes de l'impôt. Ne l'oublions pas. Voilà.
Alors,
et que cet usage, il va répondre à des questions politiques, à des questions de justice, à des questions d'équilibre, à des questions de cohésion sociale, qui sont des questions essentielles. Bah oui, il y a mais je dis pas que tout impôt est bon. Je dis pas qu'il faut augmenter à l'infini les impôts. Bien évidemment, non. Je dis pas d'ailleurs que la façon dont on utilise les impôts aujourd'hui est positive et qu'il y aurait pas une première phase de politique à faire qui serait de faire en sorte qu'effectivement cet argent des impôts soit utilisé de la façon la plus positive possible.
Et
je vous dis pas que les 40 milliards d'euros qui sont mis dans la politique du logement, ils sont efficaces et pertinents. Évidemment qu'on peut... Voilà.
Très bon exemple.
Mais ça marche, ça fonctionne. Et c'est ça qu'il faut faire. Ben c'est ça aujourd'hui la politique. Évidemment, c'est pas dire innovation, formation, productivité. Parce que ça, effectivement,
Frédéric,
c'est désespérant.
Un mot là-dessus. Hein.
C'est incantatoire. On fait de l'incantation, on fait pas des propositions.
On a une minute 20 pour terminer, Frédéric.
Ben,
là-dessus. Je
partage pas, même si j'entends tout à fait le propos qui est dit. Parce qu'en fait, c'est là aussi créer une opposition artificielle, l'économique face au social. Si on fait du social, ça se fait contre l'économique. Il faut l'économique puis le social. Bon, je trouve que c'est un peu dépassé comme façon de penser les choses. Les deux peuvent s'articuler, ça peut se prouver historiquement. Et deuxièmement, effectivement, au contraire, c'est bien contre les économistes, alors qu'on n'a rien produit effectivement depuis tant d'années, qu'il y a un vrai débat. Et la question, on peut jamais échapper complètement à l'idéologie.
Oui, mais là, on a l'impression qu'il n'y a pas de social du tout dans le système économique français, ce qui est quand même pas la réalité.
Non. Bon, mais il y a cette idée que si on veut faire du social, il faut avant de l'économique. Et si l'économique n'est pas là, on peut pas faire du social. On crée de fausses oppositions. Et au contraire, aujourd'hui, effectivement, plus que jamais, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans un environnement où il y a aujourd'hui ces contraintes écologiques auxquelles on ne pensait pas, même dans les vieux modèles du passé, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde qui vieillit, dans un monde qui fait face à ça? Au contraire, il faut garder la discussion ouverte, et l'idéologie, on n'y échappe jamais complètement, même notre collègue.
Mais on en revient aussi au fait qu'avec le niveau de prélèvement obligatoire qu'on a, est-ce que l'on peut continuer?
Débattons.
Non, on n'a pas fini d'en débattre. Et comme vous le dites, ça ne fait que commencer là, la nouvelle histoire.
Bien sûr.
Bon, merci d'avoir été là. On a tranché au moins un débat à la chocolatine.
J'espère qu'elle sort le mot chocolatine sort le grand vainqueur de ce débat.
Allez, c'est fini, merci.
Il
n'y
a plus de débat.
Jean-Marc Daniel,
Frédéric
Farah, Xavier Timbaud, rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.